Monsieur de Jomery est professeur de littérature française et comparée. Il est également, il a occupé au Maroc plusieurs fonctions administratives et universitaires. C'est un acteur culturel sur la scène marocaine. Et donc, je lui cède tout de suite la parole parce que nous avons pris beaucoup de retard.
Merci, Madame la Présidente. Je voudrais d'abord remercier de m'avoir ajouté dans votre programme puisque je n'étais pas prévu dès le début. Et je voudrais aussi remercier Madame Lehbib d'avoir accepté que j'intervienne par ce texte qui était destiné au collectif dont vous avez parlé tout à l'heure, qui va être publié dans ce cadre. Mais après l'avoir dit tout à l'heure, j'ai l'impression que tout a été dit et que je viens un peu en retard, mais je vais peut-être répéter ce qui a été dit et peut-être dire quelque chose de différent. Rien n'est plus ambigu ni plus équivoque que le langage, tout le monde le sait. Voyez cette expression, le printemps arabe. Elle évoque un printemps qui n'en est pas un, inspiré par le printemps des œillets, celui de la chute du mur de Berlin, qui en fut un. Quant à celui de Prague, ce fut un printemps tragique. Cette expression a été aussi utilisée par Benoît Méchain comme titre d'un ouvrage publié en 1959. Les lecteurs connaissent cet auteur et sa vision conservatrice, réactionnaire du monde. Son printemps arabe à lui est la période où justement se sont mis en place des régimes contre lesquels justement la jeunesse s'est insurgée aujourd'hui. Alors lui, il les encense dans un style apologétique. Printemps contre printemps, les mots disent tout et le contraire de tout. Faut-il donc se méfier grandement des discours hâtifs, enthousiastes, des littérateurs qui, dans l'urgence, expliquent, décrivent et racontent l'éruption inattendue d'un événement que Abdelwahab Medeb qualifie justement d'événement de nature politico-politique. Politique l'était-il vraiment pour que la fleur du jasmin vienne auréoler un tumulte sanglant? Politique, il l'est assurément, au point d'être pour certains une saison d'enfer qui incendie tous les printemps. La littérature de l'urgence est une littérature utile, mais n'est pas porteuse de témoignages. La romancière égyptienne Souheil Moussalta est plus sévère. Elle affirme que les romans qui s'inspirent de ce printemps ne sont pas esthétiquement convaincants. Et la journaliste tunisienne Alia Ben Nouheila, quant à elle, n'hésite pas à affirmer à son tour que les romans témoignages de cette période n'ont pas encore été écrits. Elles ont raison toutes les deux dans leur constat de réalité. Tant la création esthétique est instable comme est chaotique l'actualité politique. L'acquis irréversible est la libération de la parole, une libération salvatrice. Plus personne ne restera aveugle, ni muet, ni n'acceptera plus la censure, ni ne pliera sous l'autocensure. Cette parole qui s'incarne dans les chansons, les pièces de théâtre, les blogs, les banderoles, les slogans, qui exprime un street art foisonnant, qui utilise indifféremment l'arabe, l'anglais, le français, les langues berbères, toutes les langues à la disposition des manifestants et véhiculée par des enquêtes de journaux, de stations, de télévision, des essais, de reportages dans une profusion anarchique. Elle n'offre que peu de romans. Il faut que la littérature de fiction, pour qu'elle naisse, pour qu'elle soit fertile en œuvre marquante, une lente maturation, un temps long de gestation, une distanciation avec les événements, faisant de l'auteur un observateur plus qu'un acteur engagé. Le temps du récit, on on le sait, n'est pas le temps de la révolution, fait remarquer Martin Luther. Il est quelque peu exagéré d'écrire comme cela a été fait lorsque la foule envahissait la place Tahrir au Caire, ou défilait dans les rues des capitales arabes, que les écrivains étaient en première ligne. Ils y participaient, témérairement, en tant que citoyens, nullement en tant qu'artistes. Pister les œuvres de fiction dans cette ébullition politique et sociale reviendrait à s'interroger, indépendamment des aires géographiques qui les auraient vu naître, si parallèlement une révolution culturelle et esthétique s'était mise en marche, et si les artistes étaient à la fois acteurs et créateurs. Des rencontres ont eu lieu qui tentaient de cerner l'impact esthétique de cet imprévu. Certains analystes se sont hasardés à essayer de découvrir si ces œuvres de fiction n'avaient pas annoncé ce printemps, comme si l'artiste pouvait être devin et prophétiser ainsi l'avenir immédiat de son peuple. Certains y ont cru, l'ont même dit, après. Raphaël Antoven, dans une relecture surprenante de Moby Dick de Melville, écrit qu'au tout premier chapitre de ce livre océanique, l'auteur se livre à un exercice de divination qu'aucun charlatan ne réussirait. Il annonçait une élection problématique des États-Unis, aux États-Unis, et des batailles sanglantes en Afghanistan. Incroyable encore, dit Antoven. Comment fait Melville pour tomber juste? Rien ne laissait entendre en 1851 qu'en l'an 2000, l'élection présidentielle américaine se jouerait à quelques dizaines de bulletins et qu'il y aurait des batailles sanglantes en Afghanistan. Aucun signe ne permet ici, conclut Raphaël Antoven, de comprendre une telle sorcellerie, une telle entrevision de l'avenir. Qu'est-ce à dire sinon que la puissante imagination de Melville, par un hasard inouï, fait coïncider littérature et histoire. Fin de citation. Ce hasard inouï a-t-il aussi servi José Saramago, prix Nobel 1998, dont l'épouse a déclaré, selon l'analyste Mohamed Khattabi, que cet auteur avait prophétisé le printemps arabe dans son roman La Lucidité. Il y aurait dans cette œuvre une scène où les manifestants décidèrent d'occuper pour une longue période la principale place de la ville, obtenant satisfaction et se mobilisèrent pour nettoyer tous les alentours. Quelle que soit la lucidité de cet écrivain, talentueux mais controversé, une seule scène ne justifierait pas une telle revendication. Et le pays paraît plus être le Portugal que l'Égypte. D'ailleurs, sa myopie, son manque de lucidité sur un problème aussi vital que celui du Sahara marocain justifierait que l'on se méfiât des spéculations hâtives de son épouse. Ce hasard inouï aurait-il aussi servi, pour ne citer que cela, Mohamed Selouani dans son roman Les ailes du papillon, Amal Mukhtar dans son récit La fumée dans le palais, Raja Alam dans le collier de la colombe, Younes Mahé dans la Sévéna, Ibrahim Santos et Hassan Ouad dans son excellence, Monsieur le Ministre, pour que la critique les élise en face des oracles et face de leurs œuvres des récits prémonitoires, visionnaires, annonciateurs de fulgurantes ruptures. Curieuse situation qui voit des événements survenir et imposer au lecteur des interprétations inattendues, loin de la visée première et du projet initial des auteurs. L'œuvre de fiction, fille de l'histoire, n'a jamais prédit l'histoire. Des prédictions en littérature à leur possible réalisation dans le cours de l'histoire, c'est ce que tentèrent de cerner des séminaires, et il y en a eu beaucoup, intitulés « Printemps arabe et littérature » dont des sous-titres sont révélateurs. De la réalité à la fiction, de la fiction à la réalité. Des colloques comme Printemps arabe, Prémices et Autopsie littéraire. Dans ce genre d'approche, la plus pertinente est celle du site Mediapart, de fameuse réputation, où les journalistes élaborent un dossier intitulé « Voyage en littérature arabe », et qui, plus que de chercher une divination quelconque dans ses œuvres, essaie d'y déceler les racines de cette stupéfiante effervescence. Ils vont se demander, comme l'a justement remarqué un observateur, si les bouleversements des formes auxquelles on assiste depuis les années 80, et même depuis plus longtemps, ne préparaient pas déjà à notre insu la survenue de cet inattendu et de ces défis. Se préoccupant de savoir si la littérature était là, s'il y avait un silence des intellectuels arabes ou non, pourquoi Boualem Sansal parlait d'aphonie plutôt que de silence, les journalistes de ce site parcourent l'ensemble du paysage littéraire depuis la deuxième moitié du siècle dernier. De Najib Mahfoud à Khalid Khamisi pour l'Égypte, de Katbi Yassine à Minzawi pour l'Algérie, de Mahmoud Choukri à Mohamed Iftah, dont on parlait tout à l'heure pour le Maroc, les thèmes recensés exploitent ces écritures subversives, n'anticipent pas ces événements, ne les annoncent pas, mais on recense les itinéraires. Le réalisme descriptif de Najib Mahfoud dans sa trilogie Kairot, sa critique virulente de la répression dans son récit Karnak Café, la truculence de Alaa Aswani dans l'immeuble Yacoubian, espace qui symbolisera un îlot de résistance à l'ordre ambiant tant politique que religieux, la puissante imagination de Jamal Raitani dans la mystérieuse affaire de l'impasse Saafrani, le kaléoscope des blocages et des aspirations de la société égyptienne qui déploie Taxi de Khaled Khamisi, défriche ses routes et chemins, change la perception de l'homme arabe et éveille sa conscience. Je vais donner aussi une citation de Aswani. Ce n'est pas la fonction de la littérature de changer la situation politique. La littérature change l'être humain, nous rend des êtres humains, et ce sont ces êtres humains changés positivement par la littérature qui peuvent changer la situation. La littérature nous rendrait-elle meilleurs ? C'est ce qu'il semble suggérer. Suggère plus. Elle semble pour lui devoir faire du lecteur un être contestant les inégalités, l'oppression, les inégalités, dénonçant la pauvreté, la misère, appelant à plus de justice, devenant le complice de l'auteur dans son engagement pour un monde de plus de liberté et de fraternité. Les auteurs, quelle que soit la langue qu'ils aient choisie dans cette phase pré-printemps arabe, avaient-ils cette ambition? Leurs œuvres étaient des œuvres de dénonciation de l'ordre établi, politique, social, religieux. Se considéraient-ils militants d'un changement radical de leur société telle que l'étaient les manifestants occupant les places et les rues? Au Maghreb, une littérature bicéphale, arabe-français, maintenant tricéphale, arabe-français berbère, avait privilégié le thème de l'identité perdue, tatouée, revendiquée, ballottée entre un entre-deux épuisant, faisant émerger un jeu ivre de tous les mois, hésitant, dressant l'individu contre la famille, le père, la religion, la corruption, décrivant la misère sexuelle, érigeant tout cela sur le socle des mythes fondateurs d'utopie et de fausses espérances. Est-ce ce jeu libéré qui va se muer, si l'on en croit la théorie de Alaa Aswani, en un manifestant, brisant les interdits dans un désir fou de changement? Quelle est la part de la contestation littéraire dans l'éveil de la conscience de ce jeu qui, avec Mohamed Bouazizi, deviendra le martyr qui déclenchera l'incendie? Cette littérature sera la littérature justement d'un jeu, retrouvé, réinventé, éclaté, fragmenté. Quelle est la littérature de la diversité, de la frontière, de la marge, de la fuite, de la folie, du mythe, de l'androgyne, de l'entre-deux, de la religion questionnée, de l'altérité, du double, du nous, de la trans, de la trace, des risques d'apostasie, de l'accueil de l'autre, du refus de l'autre. Elle est littérature de la tentation du suicide, du sacrifice de l'individu, candidat au martyr. A-t-elle contribué pour autant à changer l'être humain, pour que changer positivement, comme le dit Alain Aswani, est devenu effectivement martyr flamboyant, son immolation change la société. Ce je agissant, ou ce moi agissant, ذات الفاعلة, dont parlait notre halak, serait-il le produit de cette littérature polyphonique, plurielle? Cette quête d'identité, disloquons-le nous, indignée, coléreuse, révoltée, réhabilite-t-elle l'individu qui aspire à faire choir de son piédestal l'autorité répressive et oppressive? Chez cet individu, une forte demande de liberté se révèle impérieuse, surgissant du silence qui étouffait ses voix. Des stratégies d'écriture l'ont-elles exprimé? Avec ces mots réinventés, la thématique deviendra impudique. Mais la stratégie d'écriture subversive ne portera en elle aucune prédiction. Certes, l'émergence de cet individu permet d'affirmer que cette littérature énonçait déjà en 2002, comme dans le roman écrit en anglais de Amal Abdelhamid, écrivain syrien intitulé « Dérèglement », une gigantesque déflagration au Moyen-Orient. Certes, comme le fait remarquer Dominique Conil, Hicham Mater, écrivain égyptien, écrivant en anglais, dans son roman « Au pays des hommes », ou Chok Fetah, kurde, irakien, écrivant lui en allemand dans « Noir obscur », écrivent tous deux sur la terreur et la violence. L'un et l'autre explorent l'irrespirable, les dégâts intérieurs, les mécanismes de la peur, la lâcheté et la trahison. Ils racontent la vie sous la charte d'un régime, le quotidien des gueux, l'effet de tenaille entre religion et politique, et ce qu'il advient lorsqu'on soulève la charte et que l'on rêve d'avoir une vie plutôt qu'un destin. Ils énoncent, comme bien d'autres, une réalité on nie, mais n'annonce pas. Ils sont témoins, parfois acteurs, mais ne sont ni oracles, ni prophètes. Adonis, en témoin, dit « Il faut cesser d'utiliser le mot révolution au mépris de son sens profond. » Alors, témoins ou acteurs, ces écrivains peinent à nommer les événements que vivent leur société. Beaucoup de peine. Printemps, révolution, dérèglement, révolte, effervescence, guerre civile, soulèvement, bouleversement, bataille, manifestation. La parole semble impuissante à nommer l'histoire qui se vit. Comment peuvent-ils donc, dès lors, prévoir quand le langage manque et que les mots réticents, à nommer, accentuent la déroute? En vérité, les écrivains avaient été surpris, comme tout le monde. C'est pour cette raison qu'ils ont été impuissants à nommer ce qui les a surpris. Ils avaient, dans les pays arabes, pour la plupart, animé une littérature de révolte, de souffrance, de rêve perdu. Ils ont pressenti les dérives autoritaires, l'absolutisme fondamentaliste, l'enfermement idéologique, la clôture de l'esprit. Ils ont décrit pour la plupart l'étouffement des libertés. Certains d'entre eux furent emprisonnés, torturés, d'autres ont été enlevés, ont disparu. Beaucoup furent bâillonnés, censurés, réduits au silence, ont choisi le silence. Mais la parole est restée devant les manifestations, les immolations, les sacrifices. Les affrontements, une parole politique. Elle ne s'est pas encore muée en renouvellement de la parole littéraire, esthétique, poétique, nommant la singularité des événements par une singularité du langage et des mots. Cette parole littéraire est à venir. Les œuvres que nous avons retenues pour cette étude sacrifient. Le premier, j'ai dépassé, je pense. Deux, trois. Bon, je ne parlerai pas de Santos, de la Serena d'Ibrahim Santos, de Yamin Malek, Assia tout à l'heure parlait, on a parlé avec beaucoup de. Je ne parlerai pas de Mathias Hénard, bien que Mathias Hénard ait dit que ce n'est pas du printemps arabe. Son œuvre n'était pas justement pour le printemps arabe. Je voudrais attirer simplement l'attention sur un texte qui m'a intéressé, mais très rapidement, deux minutes. C'est le texte en arabe de Amal Mukhtar, de Kham al-Qasr. Les circonstances de son écriture ont fait que, comme l'a dit un critique, on ne sait plus si c'est Amal Mukhtar qui a écrit la Tunisie ou si c'est la Tunisie qui a envahi l'œuvre de Amal Mukhtar et lui enjoint de l'écrire. Amal Mukhtar dit que ces circonstances l'ont piégé. Elle qui ne voulait écrire que sur la tristesse et l'inquiétude, la mélancolie qui l'habitait, qui se répandait dans la société, elle s'est trouvée en train d'écrire un livre politique. Elle qui n'en a jamais écrit, c'est ce qu'elle dit, ni pensait en écrire. Elle considère cette œuvre comme mixte. Parce que les 50 premières pages furent écrites avant ce qu'elle appelle révolution, et que la suite le fut après. Les personnages réclament de vivre leur destin. Le thème de l'angoisse, tout cela. Il y a quelque chose d'assez intéressant, l'écrivain en face des événements. Mais ce qui m'intéresse, c'est sa conclusion de ce Doha, de cette fumée qui monte dans le palais de Carthage, et du fait qu'elle va convoquer, dans un acte prophylactique, excusez-moi l'expression, tout le passé et les personnages importants du pays, dont Bourguiba, en regrettant la phase de ce personnage, et cela retrouve ce qu'a dit une manifestante dans un journal il y a deux jours en France, ici, où je crois que certains en Tunisie attendent un dictateur éclairé. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la manifestante, et ça rejoint d'une manière tout à fait curieuse ce que dit cette personne. Je termine très rapidement par une phrase de Sonaba Ibrahim dans son ouvrage Le Comité, publié chez Actes Sud, en Observatoire du Sud. Il a résumé l'interrogation qui s'impose à nous. Nous vivons une époque sans pareil, que ce soit par l'importance des événements ou bien par les perspectives qui s'ouvrent. Sauriez-vous nous dire ce qui, guerre, révolution ou intervention, passera pour le symbole de notre siècle aux yeux des générations futures?